Chapitre 37. Une question de perspective.
Chacun des ordres étant ainsi assorti à la nature et au tempérament du héros dont il se réclamait. Nul n'en fournissait l'archétype plus éloquent que les gardes-pierres, adeptes de Talénélat Éline, muscles de pierre, héros de la guerre. Il mettait un point d'honneur à incarner la résolution, la force et la fiabilité. Hélas, ils se préoccupaient bien moins de l'exercice imprudent de leur opiniâtreté, même placés face à la preuve de leurs erreurs. Extrait du Livre des Radieux, chapitre 13, page 1.
Une pause interrompit enfin la réunion. Il n'en avait pas fini. Père des tempêtes, il semblait qu'il n'en finirait jamais. Mais les disputes étaient terminées pour le moment. Adeline se leva, ce qui fit protester les blessures de sa jambe et de son flanc. Et il laissa son père et sa tante converser tout bas, tandis qu'un brouhaha emplissait la vaste pièce. Comment père le supportait-il? Il s'était écoulé 2 bonnes heures, à en croire l'horloge fabriale de Navani accrochée au mur. 2 heures, à écouter les hauts princes et leurs épouses se plaindre au sujet de l'assassin en blanc. Personne ne s'accordait sur ce qu'il fallait faire. Ils ignoraient tous la vérité, pourtant si flagrante sous leurs yeux. Ils ne pouvaient rien faire. Rien d'autre que de laisser Adeline s'entraîner au mieux pour se préparer à affronter le monstre lorsqu'il reviendrait. Et tu crois pouvoir le battre, alors qu'il est capable de marcher sur les murs et de forcer jusqu'au sprène de la nature à lui obéir? C'était une question dérangeante. Sur une suggestion de son père, Adeline avait retiré sa cuirasse à contre-cœur pour enfiler quelque chose de plus approprié. Nous devons projeter une impression de confiance lors de cette réunion, avait déclaré Dalinar, et non pas de peur. Le général Kahl portait l'armure à sa place, cachée dans une pièce latérale en compagnie d'une force d'assaut. Père semblait estimer peu probable que l'assassin attaque pendant la réunion. S'il voulait tuer les hauts princes, il lui serait bien plus facile de s'en prendre à eux un par un pendant la nuit. Les attaquer tous ensemble en compagnie de leurs gardes et de plusieurs dizaines de porte-éclats semblait une décision imprudente. En effet, les éclats étaient présents en nombre lors de cette réunion. 3 des hauts princes avaient revêtu leur cuirasse, et les autres étaient accompagnés de porte-éclats. Abrobadar, Jacamav, Rézi, Rélis, Adeline en avait rarement vu autant rassemblés à la fois. Tout ça ferait-il la moindre différence? Depuis des semaines, les comptes rendus affluaient du monde entier. Des rois massacrés, des dirigeants décapités dans tout Rochard. À Jacques et Ved, on rapportait que l'assassin avait tué des dizaines de soldats porteurs de boucliers semi-éclats, capables de parer sa lame, ainsi que 3 porte-éclats, dont le roi. C'était là une crise qui s'étendait au monde entier, et derrière laquelle se trouvait un seul homme, à supposer qu'il soit même humain. Adeline dénicha une coupe de vin doux dans un coin de la pièce, que lui versa un serviteur zélé vêtu de bleu et d'or. Du vin orange, qui n'était en réalité guère plus que du jus de fruits. Adeline en vida une coupe entière malgré tout, puis s'en alla à la recherche de Rélis. Il fallait qu'il fasse autre chose que de rester là à écouter les gens se plaindre. Par chance, il avait concocté quelque chose pendant qu'il était assis ici. Rélis, fils et porte-éclats vedette de Ruthard, était un homme au visage pareil à une pelle, large et plat, avec un nez qui paraissait avoir été brisé. Il portait une tenue vert et jaune tout en volant. Elle n'était même pas intéressante. Il était libre de porter tout ce qu'il voulait, et voilà ce qu'il choisissait. C'était l'un des rares porte-éclats du camp à posséder toute la panoplie. C'était aussi le champion actuel des duels, ce qui, en plus de ses liens familiaux, le rendait particulièrement intéressant aux yeux d'Adeline. Il s'entretenait avec son cousin Élite et un groupe de 3 servantes de sa déesse, des femmes portant la Hava Vorin traditionnelle. L'une de ces femmes, Mélalie, décocha à Adeline un regard furieux. Elle était plus jolie que jamais, avec ses cheveux relevés en nattes complexes piquées d'épingles. Qu'avait-il fait pour la contrarier, déjà ? leur relation remontait à une éternité. Rélis, déclara Adeline en levant sa coupe, je voulais simplement vous dire que j'ai trouvé très courageux de votre part de proposer d'affronter vous-même l'assassin, lorsque vous avez parlé tout à l'heure. Je trouve édifiant que vous soyez prêt à mourir pour la couronne. Rélis lança un regard noir à Adeline. Comment quelqu'un pouvait-il avoir le visage aussi plat? L'avait-on laissé tomber lorsqu'il était enfant?
Vous partez du principe que je perdrai?
Évidemment, reconnut Adeline en gloussant de rire. Enfin, Rélis, soyons francs. Vous êtes assis sur votre titre depuis près de 10 mois. Vous n'avez pas remporté de duel qui ait un tant soit peu d'importance depuis que vous avez vaincu Épinard. Dixit, un homme qui a passé des années à refuser pratiquement tous les défis,
commenta Mélalie en jaugeant Adeline de la tête aux pieds.
Je suis surprise que votre papa vous autorise à venir me parler. Ne craint-il pas que vous vous fassiez mal?
Moi aussi, Mélalie, je suis ravie de vous voir, répondit Adeline.
Comment va votre sœur?
Très bien, tant qu'elle se tient loin de vous.
Ah oui, voilà donc ce qu'il avait fait. Une erreur tout à fait honnête.
Rélis, reprit Adeline, vous affirmez que vous affronteriez cet assassin, et cependant, vous avez peur de m'affronter, moi, en duel.
Rélis ouvrit grand les mains, dont l'une tenait un gobelet chatoyant de vin rouge.
C'est le protocole, Adeline. Je vous affronterai en duel quand vous aurez passé 1 an ou 2 à monter dans le classement. Je ne peux pas me contenter d'affronter n'importe quel ancien duelliste, surtout si nos éclats sont en jeu.
N'importe quel ancien duelliste ? S'étonna Adeline.
Rélis, je suis l'un des meilleurs.
Ah bon ? Demanda Rélis avec un sourire. Après cette démonstration avec Eranive ?
Oui, Adeline, ajouta Élite, le cousin de Rélis, de petite taille et au crâne dégarni. Vous n'avez livré qu'une poignée de duels, un tant soit peu significatifs, dans un passé récent, et au cours de l'un d'eux, vous avez pratiquement triché. Quant au deuxième, vous l'avez remporté sur un simple coup de chance.
Rélis acquiesça. Si je plie les règles et que j'accepte votre défi, ça va soulever une tempête de tous les diables. J'aurai des dizaines de bretteurs inférieurs sur mes talons.
Pas du tout, répondit Adeline, parce que vous ne serez plus un porte-éclat.
Vous aurez perdu face à moi.
Quelle confiance, commenta Rélis en gloussant de rire avant de se tourner vers Élite et les femmes.
Écoutez-le, il ignore les classements pendant des mois, puis il revient précipitamment dans la course et part du principe qu'il peut me battre.
Je mettrai en jeu à la fois ma lame et ma cuirasse, déclara Adeline, et celle de mon frère, ainsi que l'éclat que j'ai gagné face à Eranive. 5 éclats contre les 2 vôtres.
Élite sursauta. Cet homme était un porte-éclat qui ne possédait que la cuirasse. Elle lui avait été donnée par son cousin. Il se tourna vers Rélis d'un air avide. Rélis hésita, puis il ferma la bouche et inclina paresseusement la tête sur le côté, tandis qu'il croisait le regard d'Adeline.
Vous êtes un crétin, Colline.
Je vous fais cette offre ici, devant témoin, répondit Adeline. Si vous gagnez ce duel, vous prendrez tous les éclats que possède ma famille. Qu'est-ce qu'il emporte? Votre peur ou votre cupidité?
Ma fierté, répliqua Rélis.
Il n'y aura pas de duel, Adeline.
Celui-ci serra les dents. Il avait espéré que le duel avec Eranive pousserait les autres à le sous-estimer et les convaincrait de l'affronter en duel, mais ça ne fonctionnait pas. Rélis éclata d'un rire sonore. Il tendit le bras à Mélalie et l'entraîna au loin, suivi de ses serviteurs. Élite hésita.
Eh bien, c'est mieux que rien, songea Adeline tandis qu'un plan se formait dans sa tête.
Et vous? Demanda Adeline au cousin.
Élite le jaugea de la tête aux pieds. Adeline ne connaissait pas très bien cet homme. Il avait la réputation d'un duelliste passable, bien qu'il reste souvent dans l'ombre de son cousin. Mais cet appétit. Élite voulait être un porte-éclat en bonne et due forme.
Élite, demanda Rélis.
Même proposition?
S'enquit Élite en soutenant le regard d'Adeline.
vos 5 contre le mien ?
Quel marché pitoyable ! Même proposition, répondit Adeline.
J'en suis, déclara Élite.
Derrière lui, le fils de Rutard lâcha un gémissement. Il saisit Élite par l'épaule et l'entraîna sur le côté avec un grognement.
Vous m'avez dit de monter dans le classement, lança Adeline à Rélis. C'est ce que je suis en train de faire.
Pas mon cousin.
Trop tard, déclara Adeline. Vous l'avez entendu. Les dames aussi.
Quand allons-nous nous battre, Élite ?
Chachel de la semaine prochaine, répondit Élite.
7 jours. Une longue attente pour un défi comme celui-là. Il lui fallait donc du temps pour s'entraîner, n'est-ce pas ?
Pourquoi pas plutôt demain ?
Rélis montra les dents à Adeline, réaction fort peu allaitie, et repoussa son cousin un peu plus loin.
« Je ne comprends pas votre impatience, Adeline. Ne devriez-vous pas vous concentrer sur la protection de cet individu que vous appelez votre père ?
Il est toujours triste qu'un soldat vive assez longtemps pour se mettre à perdre l'esprit. A-t-il déjà commencé à suriner dessus en public ?»«
Du calme, » se dit Adeline. Rélis cherchait à l'aiguillonner, peut-être à le pousser à frapper sur une impulsion, ce qui lui permettrait d'adresser une pétition au roi pour demander réparation ainsi que l'annulation de tous les contrats avec sa maison, y compris l'accord d'Élite pour le duel. Mais l'insulte allait trop loin. Ses compagnons reculèrent avec un hoquet face à cette brutalité si peu allaitie. Adeline ne céda pas à cette tentative désespérée. Il avait obtenu ce qu'il voulait. Il ne savait pas avec certitude ce qu'il pouvait faire au sujet de l'assassin. Mais c'était déjà là une manière de contribuer à y remédier. Élite n'était pas classé très haut, mais il servait Rutard, qui jouait de plus en plus souvent, les bras droits pour sa déesse. S'il le battait, Adeline approcherait d'un pas du véritable but, un duel avec sa déesse en personne. Il se détourna pour partir et s'arrêta net. Quelqu'un se tenait derrière lui. Un homme robuste, au visage grossier et aux cheveux noirs bouclés. Il avait le teint rougeau, le nez trop rouge et de fines veines apparentes sur les joues. Cet homme possédait des bras de soldat, malgré sa tenue frivole, qui était, admis Adeline à contre-cœur, tout à fait à la mode. Un pantalon de couleur sombre doublé de soie vert forêt, un manteau court ouvert sur une chemise amidonnée assortie, un foulard autour du cou. Thorol Sadeas, ô prince, porte éclat, et l'homme même auquel Adeline pensait à l'instant, l'individu qu'il haïssait le plus au monde.
Encore un duel, jeune Adeline, lança Sadeas en buvant une gorgée de vin. Vous êtes vraiment déterminée à vous couvrir de ridicule. Que votre père ait renoncé à son interdiction de vous laisser vous battre en duel ne laisse pas de m'étonner. Je croyais même qu'il y mettait un point d'honneur.
Adeline dépassa Sadeas sans oser adresser ne serait-ce qu'un mot à cette anguille. La vue de cet homme faisait ressurgir des souvenirs de moments de panique absolue, tandis qu'il regardait Sadeas se retirer du champ de bataille, pour le laisser avec son père, seul et cerné. Avar, Perétome et Ilamar, de bons soldats, de bons amis, était mort ce jour-là, ainsi que 6000 autres. Sadeas saisit l'épaule d'Adeline sur son passage.
« Pensez ce que vous voulez, mon garçon, » lui murmura-t-il. « Mais ce que j'ai fait, je l'ai conçu comme un acte de clémence pour votre père, un dernier coup d'épée pour un ancien allié. Lâchez-moi. Si vous perdez l'esprit en vieillissant, priez le Tout-Puissant qu'il y ait des hommes comme moi, disposé à vous accorder une mort clémente. Des gens qui se soucient assez de vous pour ne pas ricaner, mais pour vous tenir l'épée pendant que vous tomberez dessus.
« Je veux tenir votre gorge entre mes doigts, Sadeas, » siffla Adeline. « Et je serrerai encore et encore, puis je plongerai mon poignard dans vos entrailles, et j'exercerai une torsion. Une mort rapide serait trop douce pour vous. »
répondit Sadeas en souriant. « Soyez prudent, cette pièce est remplie, et si quelqu'un vous entendait menacer un haut prince ?»
C'était bien dans la manière à Letty. On pouvait abandonner un allié sur le champ de bataille, et tout le monde pouvait le savoir. Mais une offense personnelle était inconcevable. La société ne le tolérerait pas. Par la main de Nalan, son père avait raison à leur sujet à tous. Adeline se retourna d'un mouvement rapide pour s'arracher à la poigne de sa déesse. Ce qu'il fit ensuite releva de l'instinct. Sa main se referma, et il s'avança en anticipant le moment où il planterait son poing dans cette figure souriante et suffisante. Une main s'abattit sur son épaule et le fit hésiter.
« Je ne crois pas que ce serait très judicieux, clarissime Adeline, »
dit une voix douce mais sévère. Elle lui rappela son père, bien que le timbre soit différent. Il se tourna vers Amaram, qui s'était approché de lui par derrière. Grand par la taille, avec un visage évoquant la pierre sculptée, le clarissime Meridas Amaram était l'un des seuls pâles iris de la pièce à arborer un uniforme digne de ce nom. Malgré son regret de ne pas pouvoir porter de tenue plus à la mode, Adeline avait fini par comprendre l'importance symbolique de l'uniforme. Adeline inspira profondément et baissa le poing. Amaram adressa un hochement de tête à Sadeas, puis retourna Adeline par son épaule et l'éloigna du haut prince.
« Vous ne devez pas le laisser vous provoquer, votre Altesse, » chuchota Amaram. « S'il le peut, il s'en servira pour embarrasser votre père. »
Ils traversèrent la pièce remplie de gens en train de bavarder. On avait distribué des boissons et des amuse-gueules. La brève pause de la réunion s'était transformée en une véritable fête. Rien d'étonnant à ça. Avec tous les pâles iris importants qui se trouvaient ici, les gens devaient vouloir socialiser.
« Pourquoi restez-vous avec lui, Amaram ?» demanda Adeline.
« C'est mon suzerain.
Vous êtes d'un rang assez élevé pour pouvoir en choisir un nouveau. Père des tempêtes, vous êtes un porte-éclat à présent. Personne ne contesterait votre choix. Rejoignez notre camp. Alliez-vous à mon père. »
« Et ce faisant, je créerai une division, » répondit doucement Amaram.
« Tant que je reste avec Sadeas, je peux contribuer à combler les brèches. Il me fait confiance, votre père aussi. Mon amitié avec les deux contribue à maintenir la cohésion de ce royaume. »
« Sadeas vous trahira. »
« Non, nous avons un accord, le haut prince Sadeas et moi.
Nous pensions en avoir un aussi, et puis il nous a piégés. »
L'expression d'Amaram se fit lointaine. Même la façon dont il marchait était la bienséance incarnée, le dos bien droit, saluant d'un signe de tête beaucoup de gens qu'il croisait. Le parfait général Paliris. Hautement compétent, mais pas hautain. Une épée au service de son haut prince. Il avait passé la majeure partie de la guerre à former avec zèle de nouveaux soldats pour envoyer les meilleurs à Sadeas, tout en protégeant des parties d'Aletkar. Amaram avait garanti pour moitié l'efficacité de sa déesse, ici, dans les plaines brisées.
« Votre père est un homme inflexible, » déclara Amaram. « Je ne souhaiterais pas qu'il en soit autrement, Adeline. Mais ça signifie que l'homme qu'il est devenu n'est pas capable de collaborer avec le haut prince, sa déesse.
Et vous êtes différent. »
« Oui. »
Adeline ricana. Amaram était l'un des meilleurs individus de ce royaume, un homme à la réputation impeccable.
J'en doute fort.
Sadeas et moi nous accordons à dire que les moyens que nous choisissons de mettre en œuvre pour atteindre un objectif honorable peuvent être déplaisants. Votre père et moi sommes d'accord sur ce que doit être cet objectif. Un Aletkar meilleur, un endroit débarrassé de toutes ces chamailleries.
C'est une question de point de vue.
Il continua à parler, mais Adeline surprit ses pensées à vagabonder. Il avait suffisamment entendu ce discours-là chez son père. Si Amaram commençait à lui citer la voix des rois, il allait sans doute se mettre à hurler. Ou du moins... Mais qui était-ce donc là? Somptueux cheveux roux, sans la moindre mèche noire, fine de carrure, si différente des Aletti aux courbes généreuses. Une robe de soie bleue, simple mais élégante, la peau très claire,
presque chinove d'apparence, assorti à des yeux bleu pâle, un léger nuage de taches de rousseur sous les yeux qui lui donnait un air exotique. La jeune femme semblait traverser la pièce en glissant. Adeline se retourna pour la regarder passer. Elle était tellement différente.
« Par les yeux d'Ache !» s'exclama Amaram en gloussant de rire. « Vous êtes en train de recommencer, n'est-ce pas ?»
Adeline arracha son regard de la jeune fille.
« Quoi donc ?»«
Vous laissez vos yeux être attirés par la moindre jolie créature qui passe. Il faut que vous vous installiez, mon garçon. Choisissez-en une. Votre mère serait tellement honteuse que vous ne soyez toujours pas marié. »
Jasna non plus ne l'est pas. Et elle a 10 ans de plus que moi. »
À supposer qu'elle soit toujours en vie, comme sa tante Navani en était persuadée.
« Votre cousine n'est pas franchement un modèle à cet égard. »
Son intonation sous-entendait davantage « ni à aucun autre égard. »
« Mais regardez-la, Amaram, » répondit Adeline en tendant le cou sur le côté pour observer la jeune femme qui approchait de son père. « Ses cheveux. Avez-vous jamais vu une nuance de roux aussi intense ?»«
Veden, je parierais, » renchérit Amaram, « avec du sang manche-corne. Il y a des familles qui s'enorgueillissent de ces choses-là. »
Veden, ce n'était tout de même pas. Était-ce possible ?«
Veuillez me pardonner, » déclara Adeline en s'éloignant d'Amaram pour se frayer un chemin, poliment, jusqu'à la jeune femme qui s'entretenait avec son père et sa tante.
« La clarissime Jasna a sombré avec le navire, je le crains, » déclarait la jeune femme. « Je vous présente toutes mes condoléances. »